France Inter.
Aujourd'hui, la Terre face aux astéroïdes, raconté par
Charles Frankel, planétologue.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
30 juin 1908, une énorme déflagration retentit au-dessus de la Sibérie centrale, dans la région de la Tunguska, balayant une étendue de 2000 km² de forêt. 60 millions d'arbres sont renversés en un instant. La force de l'explosion est colossale, avec une énergie estimée à 1000 fois celle de la bombe atomique d'Hiroshima. Curieusement, malgré l'ampleur dévastatrice de l'explosion, la zone touchée quasi déserte ne compte qu'une seule victime confirmée. Cette explosion, qui n'a laissé ni cratère d'impact, ni débris identifiés sur place, a longtemps été enveloppé de mystère. Il a fallu attendre plus d'un siècle pour apporter un début de réponse concrète. En 2013, la découverte de fragments météoritiques apporte la preuve que l'explosion résultait bien de l'impact d'un corps céleste. L'analyse de ces fragments a montré que l'événement était dû à la désintégration aérienne d'un astéroïde d'environ 50 mètres de diamètre. Le 27 décembre dernier, un télescope automatique chilien a découvert un nouvel astéroïde comparable en taille à celui de la Tunguska et qui présenterait un risque de percuter la Terre dans 7 ans. En cas d'impact sur notre planète, 2024 YR4, c'est son nom, pourrait causer des destructions comparables à celles de 1908. Les scientifiques ont pu évaluer la menace en générant diverses trajectoires possibles pour cet astéroïde et parmi ces projections, 2% conduisent à une collision avec la Terre le 22 décembre 2032, très exactement. Une probabilité suffisamment inquiétante pour entraîner une notification à l'échelle mondiale. En réponse, le réseau international d'alerte aux astéroïdes et le groupe consultatif sur la planification des missions spatiales ont été mobilisés pour coordonner une stratégie de réponse globale. Parmi les options envisagées, le lancement d'une mission destinée à dévier la trajectoire de l'astéroïde, similaire à la mission DART de 2022 qui a démontré son efficacité. Les décisions prises dans les années à venir seront cruciales pour déterminer si 2024 YR4 peut être neutralisé ou si des mesures d'évacuation doivent être préparées. Alors que les scientifiques et les ingénieurs s'affairent autour de cette nouvelle menace céleste, cet astéroïde nous rappelle notre vulnérabilité face à ces objets célestes qui ont déjà marqué durablement l'histoire de notre planète. Les dinosaures pourraient en témoigner. Si la menace d'une chute d'astéroïde reste abstraite pour la plupart d'entre nous, les catastrophes du passé nous rappellent qu'à chaque instant, le ciel peut nous tomber sur la tête. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Nous venons de recevoir une dépêche de dernière minute. Encore une fois, si vous venez tout juste de nous rejoindre, la navette spatiale américaine Deliverance a explosé en vol. La mission finale pour sauver l'humanité a échoué. Matilda, l'astéroïde de 110 km de diamètre, va percuter la Terre dans exactement 3 semaines. Le compte à rebours pour la fin du monde est donc lancé. Mais il se fera bien entendu au son de vos classiques rock préférés. Vous êtes sur Q107,2.
Extrait du film « Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare » en 2012. Bonjour Charles Frankel.
Bonjour Mathieu Vidard.
Vous qui publiez ce livre « Bombe cosmique, la Terre face aux astéroïdes » aux éditions du Seuil. Doit-on s'inquiéter de cet astéroïde 2024 YR4 qui menace de percuter la Terre en 2032 ?
Il faut s'inquiéter avec raison. Parce que comme vous l'avez dit, la probabilité d'impact n'est pour le moment que de 2%. C'est quand même tout à fait notable. Hein. Ça fait une chance sur 50 qu'en 2032, il frappe la Terre. Alors cela étant, 2%, c'est pas non plus 100%. Et d'autre part, la trajectoire de frappe sur la Terre couvre quand même énormément d'espace vide. Mmh. Et c'est ça qu'il faut se souvenir, c'est que la Terre finalement est très peu peuplée. 3/4 d'océan. Et la trajectoire telle qu'elle est prédite à l'heure actuelle pour le 22 décembre 2032 survole une partie du Pacifique Sud, une partie de l'Amérique du Sud, ah là il y a problème, l'océan Atlantique, une partie de l'Afrique, une partie de l'océan Indien et l'Inde. Là, c'est plus dangereux.
Oui.
Parce que si ça frappe l'Inde, là, il y aura du dégât.
Ben, l'Afrique aussi, d'ailleurs.
Hein, et l'Afrique aussi, oui, pardon. Mais je parle simplement de la densité de population.
On connaît cet astéroïde depuis le mois de décembre dernier seulement, mais il est donc déjà activement surveillé.
Oui, en fait, c'est, d'abord, les astéroïdes, c'est très très sombre, c'est noir comme du charbon. Donc, quand c'est un astéroïde de petite taille, généralement, on le repère qu'à la dernière minute, on va dire, quand il passe assez près de la Terre pour être visible. Donc, il a été repéré, comme vous l'avez dit, par un système automatique de caméras sur des télescopes, et maintenant, branle-bas de combat. Et ça, heureusement, tout est coordonné. Dès qu'un astéroïde nouveau est découvert, on le signale à tous les observatoires. Et là, il est suivi en particulier par des observatoires au Chili, le télescope danois, au Chili aussi. Il va être surveillé par le télescope spatial James Webb dans les semaines à venir.
C'est ça qui va donner du renfort. Pourquoi finalement affiner les prédictions de sa trajectoire?
C'est ça.
C'est ça le but.
Mais oui, parce qu'une orbite, c'est très compliqué. Et donc l'astéroïde est passé en trombe. On n'a pu l'observer que, comme vous le dites, que depuis le 27 décembre. Et donc on a un arc de trajectoire très court. On n'a qu'un mois et demi de portion de trajectoire sur une ellipse qu'il prend 4 ans à parcourir. Donc juste avec un petit fragment d'ellipse, on ne peut pas suffisamment dessiner sa trajectoire précise. Donc plus on l'observe, plus on a un arc de trajectoire long à mettre dans l'ordi, et plus on peut reconstituer l'orbite globale et savoir où il passera dans 4 ans, et puis dans 8 ans, en 32.
Les spécialistes qui n'ont que jusqu'au mois d'avril, justement, pour faire tous ces calculs, puisqu'il ne sera plus visible avant juin 2028.
Eh bien oui, jusqu'à son prochain passage. C'est ça le problème, c'est qu'il est tellement petit, tellement sombre, que même avec nos télescopes les plus puissants, il va sortir. Donc, c'est très bien qu'il y ait eu le branle-bas de combat, ça montre à quel point, en ce moment, on est efficace, justement, dans le recensement des astéroïdes. C'est que, dès qu'il y a quelque chose de vue, tout le monde se met dessus pour calculer la trajectoire.
Dans un communiqué du 7 février, la NASA a donc réévalué le risque de collision de cet astéroïde. D'abord évalué à 1,2% de chance, puis à 1,9%, et donc maintenant désormais 2,3%. Est-ce que le fait d'affiner justement la trajectoire pourrait aussi écarter définitivement le fait qu'il s'écrase sur Terre?
Oui, c'est bien ce qu'on espère. Alors c'est déjà très rare qu'en affinant la trajectoire, la probabilité d'impact augmente plutôt qu'il ne diminue. Ça m'a frappé. C'est quand même quelque chose de... J'ai jamais vu ça. C'est quelque chose de très particulier. Généralement, on a une probabilité globale, et puis ensuite, dès qu'on fait un deuxième calcul, elle s'en va, elle tombe à zéro. Et c'est ce qui s'était passé pour Apophis, qui était la dernière grande alerte il y a quelques années. Elle était assez haute, elle était estimée à 5, 6, 7%, et puis dès le calcul suivant, elle tombait à zéro. Or là, on reste de façon inquiétante, on reste sur la base de 2%. Alors, à l'avenir, le problème, c'est qu'il faudra peut-être attendre 2028 pour avoir un meilleur, puisqu'on est en train de le perdre, pour pouvoir affiner la trajectoire. Il faut espérer qu'avec James Webb, le satellite astro qui regarde en infrarouge, donc il pourra voir la lueur de l'astéroïde un peu plus longtemps dans le froid du cosmos, il faut espérer que le James Webb, le mois prochain, le mois d'avril, va affiner et fera tomber cette probabilité vers zéro. Mais pour le moment, ça tient.
Ouais, 2024 YR4, ça veut dire quoi d'ailleurs ce nom de code là?
Ouais, c'est pas très sexy.
Ce nom moche.
On donne les noms d'astéroïdes, on en découvre tellement. On en découvre des dizaines de milliers tous les ans. Et donc, il faut lui donner le nom de l'année où on découvre. Ensuite, le X ou le Y dans ce cas-ci, c'est la deuxième quinzaine du mois de décembre. Et ensuite, où on l'a découvert, ensuite R4, c'est à l'intérieur de cette quinzaine. Voilà. Donc c'est uniquement selon la date de découverte.
Astéroïde d'un diamètre entre 40 à 100 mètres. Donc c'est difficile d'évaluer précisément la taille de ce qu'on appelle un géocroiseur.
Oui, parce qu'en fait, on voit qu'un point lumineux et la taille, pour traduire ce point lumineux en une taille, ça dépend à la fois du diamètre de l'objet, mais aussi justement de son éclat, de ce qu'on appelle sa réflectivité ou son albédo, qui est le nom astronomique donné à ça. Donc si c'est vraiment un sac de carbone très très sombre, ça veut dire qu'il est grand pour donner autant de lumière. Si en revanche c'est quelque chose d'assez réfléchissant, il est plus petit pour donner la même lumière. Donc vous voyez que c'est une équation à deux inconnues et on ne peut pas la résoudre sans avoir au moins l'une des deux.
Cet astéroïde a donc été découvert à la fin du mois de décembre. Ça signifie donc qu'à tout moment, on peut découvrir un objet problématique. Donc là, on a 7 ans avant la possible frappe sur Terre. Est-ce qu'on pourrait avoir un astéroïde qui apparaisse avec une frappe beaucoup plus courte, en tout cas dans l'anticipation?
Ah oui, complètement. Des objets de cette taille, la preuve, c'est qu'on ne le connaissait pas avant Noël,
ouais.
avant le 27 décembre pour être précis, et on ne le connaissait pas. Donc des objets de cette taille-là, il y en a des millions. Enfin, qui croisent la Terre, il y en a des dizaines de milliers, on va dire.
Donc entre 50 et,
ouais, c'est ça,
et 100 mètres de diamètre.
C'est
hein.
ça, dans cette gamme-là. Et donc, des petites, on n'en connaît que 1 ou 2% seulement.
Ouais.
Donc il y a énormément d'inconnus. Pour les gros, je vous rassure, pour les gros de l'ordre du kilomètre qui dévasterait notre civilisation, là, on les a pratiquement tous catalogués. Et je vous rassure, il n'y en a aucun qui risque de rentrer en collision avec la Terre dans les 1000 années à venir.
Oui, bon, ça va, c'est au moins la bonne nouvelle de cette émission. Si donc cet astéroïde 2024 IR4 frappait la Terre, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme conséquence? Évidemment, il tombe au mauvais endroit.
Ah bah voilà, s'il tombe sur une ville, la ville est rayée. Donc, un objet de cette taille est capable de rayer Paris de la carte, ou, puisque ce n'est pas Paris qui sera survolé, Mumbai, qui est la ville située sur sa trajectoire en Inde.
Mm-hmm.
Donc là, vous avez des millions de morts. Carrément. Et si ça frappe l'océan, zéro. Sauf le pauvre navire de croisière qui aurait eu le malheur d'être là.
Bon, ça c'est vraiment le pire des scénarios, il est très peu probable quand
c'est
même.
C'est ça, hein. Bah, 2%.
Les agences spatiales, est-ce qu'elles peuvent prévoir une mission de défense planétaire autour de cet astéroïde, si vraiment les choses se précisent ou pas? Et à quel moment est-ce qu'elles peuvent l'enclencher?
Alors, il faut du temps. Et ça, le truc, c'est qu'on se rend compte... Alors, l'idée, par exemple, ce serait d'envoyer une bombe atomique, souffler l'astéroïde hors trajectoire.
C'est sérieux, ça?
C'est sérieux. Ah ouais, il faudrait au moins ça. Il faudrait au moins ça parce que...
Pour le dévier.
Pour le dévier. Pour le dévier suffisamment, il faudrait au moins ça. C'est pas juste une pichenette en envoyant juste une bombe classique ou quelque chose comme ça. Mais c'est tout à fait réalisable. En revanche, mettre sur pied une telle opération, ça prend 5, 6, 7 ans. Donc,
ça n'a jamais été fait.
Et ça n'a jamais été fait. Alors, ça a été fait juste une petite pichenette avec une boule de 700 kilos, une sonde qui s'est écrasée donc, sur Dimorphos.
Avec la mission DART.
Avec la mission DART très récente, il y a 2 ans. Donc, ça a été testé. Ça a dévié légèrement l'astéroïde. Donc, on commence à récolter des données de quel est le résultat. On a découvert des choses très, très intéressantes.
Donc,
d'ailleurs.
Vous dites ça, on a réussi avec la mission DART.
Oui.
Mais ce n'est pas suffisant pour affronter un astéroïde de 50 à 100 mètres de diamètre.
Et oui. Parce que, alors, la comparaison que je fais, c'est que vous arrivez, que je fais dans mon livre d'ailleurs, quand vous arrivez dans un carrefour avec votre voiture, dans le carrefour, il y a un camion qui arrive à angle droit, oula, comment l'éviter? Soit vous accélérez pour passer le carrefour plus vite que lui, soit vous freinez pour laisser le camion passer. Seulement, plus vous voyez le camion en avance, et plus donc vous agissez en avance, plus c'est facile, il vous suffit de freiner un peu.
Mmh.
En revanche, si vous êtes endormi et que c'est 3 secondes avant le carrefour que vous voyez le camion, là, il faut freiner à mort et même là, votre voiture va sans doute quand même lui rentrer dedans. Donc, le truc, c'est qu'il faut le faire en avant. Plus vous freinez en avant votre astéroïde, ou l'accélérez donc avec une pichenette nucléaire, plus vous avez de chances d'éviter la Terre. Parce qu'il suffit de le pousser un tout petit peu et en 1 ou 2 ans, voilà, il aura sera suffisamment écarté pour passer. Si vous le faites 1 mois avant, il faudra le pousser très très fort.
En tout cas, ce serait une sacrée nouveauté pour la Terre d'avoir ce type d'opération. On en parlera avec vous dans un instant pour évoquer donc la Terre face aux astéroïdes. Il y a beaucoup d'histoires que vous racontez d'ailleurs dans votre ouvrage « Bombe cosmique aux éditions du Seuil ». Charles Frankel, vous êtes notre invité.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Vous habitez le nord de la France. Vous avez peut-être vu le ciel s'illuminer un court instant la nuit dernière. Un petit astéroïde d'environ 1 mètre est passé juste au-dessus de nos têtes à 3h59, très précisément. Il s'est désintégré en rentrant dans l'atmosphère.
Le journal de 20h sur France 2, le 13 février 2023. Charles Frankel, vous qui êtes planétologue et qui publiez « Bombe cosmique, la Terre face aux astéroïdes » aux éditions du Seuil. Ça arrive souvent, ce type d'événement? Un petit astéroïde d'un mètre de diamètre?
Eh oui.
Un mètre de diamètre quand même.
Un mètre quand même. Hein. Ouais, et encore, j'ai entendu, ça pouvait mesurer jusqu'à 3-4 mètres quand même, cet engin. Ça arrive tous les mois. Ouais. Tous les mois, la Terre se fait percuter par un objet de cette taille. Alors, c'est suffisamment petit, heureusement, pour simplement se désintégrer dans la haute atmosphère. Il reste que de la caillasse qui tombe. Mmh. Vous n'avez pas intérêt à être sous la caillasse, parce qu'une pierre qui tombe de cette altitude, ça arrive à 300 km/h.
Hein, ça quand fait même, mal.
Hein. Ça fait mal. Donc, mais, comme on le disait précédemment, la plupart de ces objets frappent au-dessus des océans, puisqu'il y a trois quarts de la Terre qui est recouverte par un océan. Que ça frappe une région peuplée, c'est plus rare. D'où le fait très intéressant que c'est frappé au-dessus de la Normandie, que cet astéroïde, alors là, ce petit objet, là aussi, c'est très particulier, il a été perçu avant de frapper, parce qu'un objet aussi petit, pareillement, il faut le voir arriver. Donc, quelques jours avant, les télescopes l'ont vu, ont calculé son trajectoire, sa trajectoire, et ont pu prévenir par les réseaux sociaux qu'il allait frapper la Normandie selon une certaine trajectoire pour qu'on puisse l'observer. C'est remarquable qu'on puisse ainsi prédire un petit impact.
Est-ce qu'on a retrouvé les cailloux ou pas ?
Et en fait, oui. Ouais. Alors, au bout de quelques jours, on s'est mis à fouiller. On a très, très bien vu, parce qu'en plus, beaucoup de personnes filmaient. Donc, on avait des caméras pour se croiser et avoir la trajectoire exacte. Il a fait une salve de petits cailloux entre Dieppe et Doudeville. Et dès deux, trois jours plus tard, on en ramassait des morceaux, même de la taille du poing.
On l'a vu, donc, la menace plane toujours et régulièrement, en tout cas, au-dessus de notre tête. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est un péril qui reste évidemment extrêmement abstrait. Il faut dire que les victimes sont rares. Heureusement, la mort par impact d'astéroïdes, vous le rappelez dans votre ouvrage, ne figure pas bien haut dans la liste des causes de décès. Hein.
Non, comme je dis souvent, les impacts sur Terre, pour nous, les plus dangereux, ils sont horizontaux. C'est les voitures quand vous traversez la route. Les impacts verticaux qui viennent du ciel, il y en a eu. Alors, dans les annales chinoises, il y a quelques informations très troublantes de plusieurs milliers de morts dans les années, alors les années 300, les années 800, je crois, après Jésus-Christ. Et ensuite, bizarrement, à l'époque médiévale, un moine, puis un autre, tué dans un monastère par une astéroïde bizarre. À mon avis, là, peut-être qu'il y a eu un petit meurtre qui a été déguisé. Tunguska, comme vous l'avez rappelé, ouais, en 1908, il y a eu au moins un mort, peut-être deux, parmi les nomades.
Mais là, c'est pareil, il était tombé dans une zone où il n'y avait pas d'habitants.
Peuplé, mais heureusement, parce qu'il suffisait qu'à quelques heures d'intervalle, la trajectoire, elle passait au-dessus de Saint-Pétersbourg.
Ouais, et là, il y avait des millions de morts.
Et là, il y avait des millions de morts. Ouais. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut garder en tête, heureusement, c'est que la Terre est finalement très peu peuplée au niveau de sa surface, et que donc les probabilités, il faut les mettre justement en perspective avec la taille du globe.
Les Russes se souviennent d'un événement récent, 2013, Tchelyabinsk, oui, qui a été le témoin d'une explosion, alors qui a fait un millier de blessés, explosion au-dessus de la région. C'est-à-dire que là, ce sont les effets de l'explosion dans le ciel.
Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, c'était pareil pour Tunguska, qui était même supérieur en taille. C'est que jusqu'à 30-40 mètres de diamètre, un objet va exploser dans l'atmosphère avant de frapper le sol. Mais c'est pas plus rassurant, hein, parce que c'est comme pour les bombes atomiques. C'est pas en la faisant exploser au sol que vous faites le plus de dégâts. Hein. C'est en la faisant exploser au-dessus, pour que le souffle détruise un maximum d'infrastructures. Or, c'est bien ce qui s'est passé à Tchelyabinsk. Heureusement, il n'y a pas eu de mort. Ouais. Il y a eu au moins 1000 blessés. 300 personnes au moins sont allées à l'hôpital avec en fait, des coupures, parce que ce sont les vitres qui ont volé en éclats. Tchelyabinsk, c'est plus d'un million d'habitants. Hein. Ouais. Ça s'est passé là, par une très grosse malchance, au-dessus d'une ville.
Donc ça, c'est 2013, et vous écrivez, cet événement a été à la limite de l'acceptable en termes de dégâts et de menaces sur la population.
Bah oui, parce que là, franchement, hein, il suffisait qu'il soit, l'astéroïde fasse 60 mètres plutôt que 40, enfin, non, il faisait 20 mètres, qu'il fasse 50 mètres plutôt que 20 mètres de diamètre, et là, la ville était soufflée.
Les cratères d'impact, vous en parlez beaucoup également dans votre ouvrage. On a pris conscience de ces cratères à partir du moment où on est allé sur la Lune dans les années 60 avec les missions Apollo. Les astronautes débarquent. Enfin, on les avait déjà observés avant quand même, ces cratères. Hein.
Ouais, mais il y avait énormément de controverses là-dessus. Hein. Ouais. C'était beaucoup de personnes y voyaient des volcans. On n'avait pas du tout encore pris la mesure du nombre d'impacts dont souffrent la Terre, la Lune, etc. Ouais,
avec un sol complètement vérolé sur la Lune.
Hein. Ah, mais oui, c'est mais vraiment la Terre, ça dont il s'agit. Mais imaginez, la Terre devrait ressembler à ça s'il n'y avait pas l'érosion de l'atmosphère, la tectonique des plaques qui nivellent constamment la surface terrestre. Mais sinon, la Terre serait vérolée de la même manière.
Est-ce qu'il existe des météorites terrestres, Charles Frankel ?
Alors, des météorites terrestres, ce seraient donc des météorites, des fragments de la Terre qui auraient été éjectés dans l'espace et qui nous retombent dessus ?
Ou qui retombent sur la Lune, par exemple ?
Ah ça, oui. Oui. Ah oui, complètement. D'ailleurs, pas mal de géologues pensent que quand on explorera un peu plus la Lune, qu'en ratissant le sol, on trouvera des fragments de Terre qui remonte par exemple à l'impact des dinosaures, il y a 66 millions d'années.
Ah oui, carrément.
Ah, carrément.
Qui ont été éjectés à ce moment-là.
Ah oui, oui, oui.
Ouais. L'impact des dinosaures, puisque vous en parlez, écoutons un extrait de Science Grand Format, c'était en 2022.
L'une des plus grandes et probablement la plus célèbre des zones d'impact de la planète s'appelle Chicxulub. Elle se trouve au large de la côte sud du Mexique. Un corps de 10 ou même 20 km s'est abattu sur la Terre et a créé un cratère massif il y a 66 millions d'années. Et nous pensons que l'impact peut avoir conduit à l'extinction des dinosaures.
Charles Frankel, l'histoire est connue, évidemment. Les dinosaures non aviaires, donc sauf les oiseaux, ont disparu il y a 66 millions d'années en raison de l'impact d'un astéroïde et puis aussi d'une activité volcanique majeure. Est-ce que cette théorie est remise en cause ?
Alors, en ce qui concerne les volcans, personnellement, j'y ai jamais cru. Pour moi, l'astéroïde est responsable à 100% de l'extinction de la plupart des espèces vivantes.
Mais qu'est-ce que vous remettez en cause ? Le fait qu'il y ait eu une activité volcanique ?
Non, l'activité volcanique a eu lieu.
Elle a existé.
Oui.
Mais c'est son rôle dans la disparition des dinosaures que vous remettez en cause.
Oui, c'est ça. Elle a été extrêmement soutenue en France parce que ça a été une théorie assez française. Enfin, il y a eu également les savants, les chercheurs de Dartmouth dans le New Hampshire qui soutenaient cette thèse. C'était une hypothèse tout à fait recevable. Les hypothèses en science, il faut toutes les étudier. Mais je ne l'ai jamais vue confirmée, en tout cas de façon satisfaisante pour moi. Je ne l'ai jamais vue confirmée d'une façon ou d'une autre. Alors que donc je pense qu'elle n'a même pas contribué à la perte en diversité des espèces à l'époque. Je pense franchement que à 100%, l'astéroïde est responsable et le volcanisme à zéro.
Bon, il y a controverse là-dessus.
Ah oui, il y a controverse.
Tout le monde n'est pas d'accord.
Tout à
et
fait.
Tous les scientifiques qui sont passés à ce micro ne sont pas d'accord avec
ils
vous.
Ils sont français.
Absolument. Bon. Est-ce que les cratères d'impact ont été clairement identifiés sur l'astéroïde des dinosaures, justement ?
Oui. Le cratère d'impact du Chicxulub a été découvert au terme d'un jeu de pistes extraordinaire, d'ailleurs une très très belle histoire de la science. Donc, il poinçonne effectivement la côte du Yucatan. Il est à moitié sous la terre ferme du Yucatan et par moitié sous le golfe du Mexique. Il fait à peu près 180 km de diamètre.
Ouais.
180 km de diamètre. On ne l'a pas vu pendant longtemps parce qu'il est enseveli sous 1000 mètres de sédiments.
Oui, c'est ça,
le Yucatan, c'est plat. Et il y a des façons, pourtant,
de voir. Vous êtes allé sur les lieux,
d'ailleurs.
À quel endroit
oui.
vous êtes allé pour essayer ?
Alors, carrément, tout le long de la zone du cratère enfoui, de l'arc de cercle est d'ailleurs visible en surface. Pourtant, c'est à 1000 mètres de profondeur. Mais le fait qu'il a fracturé la croûte terrestre, qu'il a fait des failles qui rejouent de temps en temps avec les petits séismes qui sont un peu partout sur Terre, la nappe phréatique est déviée par les failles qui marquent la périphérie cachée du cratère, remonte en surface et perce des petits lacs en un arc de cercle tout à travers le Yucatan, qu'on appelle les cenotes en espagnol, qui sont devenus des puits sacrés pour les Mayas, qui sont des effondrements, parce que l'eau un peu acide sape la terre calcaire au-dessus et fait s'effondrer, et ça fait en pointillé, ça dessine en pointillé le pourtour du cratère enfoui. Ensuite, pour en savoir plus, il faut faire des forages.
Est-ce qu'on retrouve des cadavres de tous les animaux qui ont été exterminés au moment de l'impact il y a 66 millions d'années, ou pas du tout ?
Eh ben,
parce
non.
Parce qu'on devrait, logiquement, non ?
Alors, on devrait logiquement, sauf que c'est très très difficile de devenir fossile. Sauf pour certains sénateurs. Non, c'est une blague en passant. C'est très difficile de devenir fossile parce qu'il faut mourir au bon endroit, être recouvert tout de suite par une bonne couche, être momifié en quelque sorte.
Ouais.
Et ça n'arrive pas à tout le monde. Donc, si par exemple vous dites « je veux retrouver les morts d'une seule génération sur Terre », c'est-à-dire la génération qui gambadait au temps des dinosaures, vous avez très peu de chances de les trouver. Vous en trouverez d'autres avant, après, enfin pour les espèces qui sont passées à travers la catastrophe, mais tomber le jour J, difficile. Sauf que, par chance, on est tombé dessus. On est tombé sur un magnifique cimetière dans le Dakota, dans le Montana plutôt, Tanis, qui a été découvert par un paléontologue au début des années 2000. Et on a trouvé...
Qu'est-ce qu'on a alors dans ce cimetière ?
Alors, c'est incroyable. C'est un dépôt de tsunami, puisqu'il y a eu une tout a été secoué sur la Terre par cet impact, y compris la mer intérieure qui pénétrait à l'intérieur des États-Unis. On a retrouvé en pagaille, figé dans les sédiments, plein de poissons morts pendant l'impact, des esturgeons, des poissons spatules. On a retrouvé des dinosaures, on a retrouvé des tortues, une tortue empalée sur un tronc d'arbre.
Et ça, c'est la photographie de la catastrophe.
Et c'est la photographie de la catastrophe.
Charles Frankel, vous êtes notre invité. On parle astéroïdes avec vous et vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent sur franceinter.fr.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
De quoi s'agit-il ?
C'est un astéroïde.
Quelle est sa taille ?
D'après nos premières estimations, il aurait 97...
Il est grand comme le Texas, monsieur le Président.
C'est cela.
Vous êtes en train de me raconter qu'on ne s'y attendait pas ?
Pour les risques spatiaux, notre budget est $1 million. Grâce à cela, on surveille à peine 3% du ciel.
Excusez-moi, monsieur le Président, mais le ciel est vaste.
Et celui-ci, il va nous heurter ?
Nous le saurons bientôt, monsieur le Président.
Est-ce que vous avez une idée précise du risque ?
Le risque ?
Il est total, monsieur. C'est ce que nous appelons un exterminateur. La fin de l'humanité. Où qu'ils viennent à s'écraser, rien n'y survivra, même pas une bactérie.
Armageddon 1998, Charles Frankel, même pas une bactérie quand même.
Ouais, non, il en faut beaucoup plus.
Ouais. Hein. Là, probablement qu'il y aurait quand même des survivantes. Hein.
Absolument.
Mais cette hypothèse... Elle est envisagée.
Elle est envisagée, puisque ça s'est passé au temps des dinosaures, il y a 66 millions d'années.
Ouais.
Ça se reproduira. Mais heureusement, la probabilité, là, elle est vraiment très très faible.
Ouais.
Pour qu'un objet de la taille des dinosaures, de celui de l'extinction des dinosaures frappe, la probabilité, c'est peut-être une fois tous les 300-400 millions d'années.
Oui, donc ça va.
On est
à peu près peinard.
Ouais.
L'immense majorité des astéroïdes circulant entre Mars et Jupiter, on peut quand même le rappeler, il y a une très belle ceinture à ce moment-là, à cet endroit-là. Est-ce qu'on arrive à les mesurer d'ailleurs, les astéroïdes de cette ceinture ou pas ?
Ah oui, mais pareil, c'est une question de taille. Tous les gros, on les connaît bien. Ensuite, quand on tombe sous la barre des 100 mètres, là, ça devient pratiquement invisible avec nos moyens actuels. Mais les gros, oui, parce que le plus gros, même, il fait presque 900 km de diamètre. Hein.
Oui.
C'est l'astéroïde Cérès. Et puis, on envoie des sondes spatiales, les photographier, même les mesurer, même
s'y poser,
prendre des échantillons
oui,
et les
ça.
Ramener, et les ouais. rapporter.
Ça, c'est tout
magnifique.
Ça, c'est tout à fait nouveau.
Ah ouais,
on
ça,
a ramené quoi, 120 grammes à peu près d'échantillons.
C'est ça,
le dernier,
le dernier, tout à fait. Par une sonde américaine, ça a été l'astéroïde alors c'était Bennu, je crois. On en a ramené 120
avec
grammes.
Avec Hayabusa 2, je crois, hein, qui avait ramené...
Alors, tout à fait, vous avez deux sondes japonaises, Hayabusa 1 et 2, qui ont ramené quelques grammes avant ça.
Est-ce que des grands cratères d'impact sur Terre, on en trouve beaucoup ? Alors vous disiez, ben, c'est pas du tout comme la Lune, mais si la Terre était dénudée, on en verrait beaucoup. Mais quels sont ceux qui sont visibles à l'œil nu ?
Alors visibles à l'œil nu, très bizarrement, ce sont presque les plus petits. Parce que comme les plus petits, il y en a beaucoup qui frappent. Il y en a qui frappent récemment et qui donc n'ont pas encore été effacés par l'érosion. Donc en fait, le plus beau, il est tout jeune. C'est un tout petit, de 1 km et des poussières de taille. C'est le célèbre Meteor Crater, ou Barringer, pour être plus précis, dans l'Arizona. Et si jamais vous faites du tourisme dans le nord de l'Arizona pour aller voir le Grand Canyon, il faut absolument faire un détour pour aller voir le Meteor Crater. Il est très beau. C'est un joli bol. En plus, il est coloré. Les strates pulvérisées sont...
Bon, prenez pas l'avion exprès pour aller le voir quand même, hein, parce que c'est pas le message qu'on porte dans cette émission, Charles Frankel. Vous parlez d'astroblème, vous. C'est quoi un astroblème ?
Ouais, astroblème, c'est un terme qui a été inventé par un géologue américain, Robert Dietz, pour dire finalement une cicatrice en latin, une cicatrice d'impact plutôt qu'un cratère, parce que c'est pas toujours un beau cratère, parce que l'érosion va n'en laisser parfois que des lambeaux, donc on dit une cicatrice, on dit un astroblème.
Oui.
Et alors des grands, on a parlé des petits, mais des grands sur Terre, il y en a, mais ils sont parfois difficiles à reconnaître, il y en a de très beaux au Canada.
À Charlevoix, par exemple, au Québec, hein, avec
oui.
un diamètre de plus de 4 km.
Mais, ah, alors, plus de 40.
40 km.
Ah oui, oui, il fait 45 km.
45 km, mais c'est l'astéroïde de l'époque, hein, on a une idée.
Oui, la taille de l'astéroïde,
ouais,
il faut, c'est généralement un rapport de 1 à 20. Donc pour faire un cratère de 40 km, il faut qu'il fasse 2 km, que l'astéroïde faisait 2 km de diamètre,
c'est ça.
Environ,
et
à la
c'était
louche.
C'était il y a 450 millions d'années.
Ouais,
hein,
c'était il y a longtemps.
Et ça, on le voit vraiment à l'œil nu, en fait. Ça.
Mais alors, c'est remarquable, parce qu'avec cet âge-là, on aurait pensé qu'il aurait été totalement détruit. Il faut vraiment des conditions magnifiques pour qu'un cratère aussi vieux soit préservé. Ouais. Et à Charlevoix, c'est le cas. Sauf que c'est que la moitié qui est préservée. Ouais. Parce qu'il y a une faille qui coupe à travers le terrain là, la faille du Saint-Laurent, la faille Logan, qui définit le cours du Saint-Laurent. Et donc, côté Saint-Laurent, il n'y a plus rien. Et côté les Laurentides, qui sont la chaîne de montagnes québécoise, là... c'est très très visible, très beau.
Charles Frankel, il y a tellement de questions qu'il faut que nous y allions tout de suite. Beaucoup de questions, donc réponses courtes s'il vous plaît. Nicolas demande, que sait-on de la provenance des astéroïdes? Y a-t-il des foyers d'astéroïdes? Alors je parlais de cette ceinture entre Mars et Jupiter.
Tout à fait, il y en a deux.
Ça c'est un grand foyer d'astéroïdes.
Voilà, il y a la ceinture des astéroïdes. Alors pour que ça sorte de la ceinture des astéroïdes pour venir vers la Terre, il faut une pichenette. Ouais. C'est généralement Jupiter qui s'en charge. Et vous avez un deuxième foyer dont on n'a pas parlé, les comètes, qui sont beaucoup plus loin et qui comptent quand même pour un bon quart, sinon un tiers des impacts sur Terre.
Et on les considère comme des astéroïdes ou pas?
Non, on utilise des noms, mais il y a toute une gradation entre astéroïdes et comètes. Voilà, il y a des trucs qui sont mi-astéroïdes, mi-comètes. Voilà, il y a des familles compliquées.
Patrick demande, existe-t-il des projets pour exploiter les ressources des astéroïdes dans le futur? Vous en parlez dans votre ouvrage.
Mais oui, absolument. Il y en a eu pas mal au début des années 2000, quand on a commencé aux États-Unis à déréguler l'accès industriel à l'espace. C'est très, très douteux qu'on puisse faire des bénéfices de quoi que ce soit. Ce qui serait intéressant sont les terres rares qui sont utilisées dans nos semi-conducteurs, l'iridium, le palladium, le rhodium,
le platine.
Mais même aux petites concentrations qu'il y a dans les astéroïdes, oh là là, ce serait une usine à gaz.
Ouais. Et vous parlez de l'eau. Est-ce que l'eau pourrait représenter une ressource à aller capter dans les astéroïdes?
Oui, on y pense guère. C'est de l'eau. Mais oui, mais dans l'espace, l'eau, ça sert beaucoup. Ça sert justement au voyage spatial et pas seulement pour alimenter les gourdes des astronautes. Mais c'est parce qu'avec de l'eau, vous pouvez faire du carburant en le dissociant avec l'électricité, avec des panneaux solaires, vous obtenez de l'oxygène et de l'hydrogène. Mmh. Et donc, un carburant de moteur fusée.
Donc, pour ceux qui ont des rêves fous de conquête spatiale...
N'est-ce pas? Citons personne, mais effectivement...
Voire martienne.
Voilà, on peut installer des stations-service.
Oui, c'est ça. Michel dit, est-ce que le choc de l'astéroïde du Mexique, donc celui qui a causé la disparition des dinosaures, a provoqué une modification de l'axe de rotation de la Terre?
D'après les calculs, non. Il en faudrait bien plus pour ça. Il y a eu vraiment, franchement, non. Mais en revanche, pour des objets beaucoup plus gros au début du système solaire, quand vous avez des mini-planètes qui se rentraient dedans, là, oui, Vénus a un axe de rotation complètement fou, et une rotation complètement à l'inverse de la logique que l'on attribue à des gros impacts.
Hervé demande trois questions. Y a-t-il de moins en moins d'astéroïdes?
Alors non, parce que bizarrement, il y a la même masse, mais comme ils se rendent dedans continuellement, ils continuent à s'émietter, donc il y en a de plus en plus.
Quelle était la taille de la météorite des dinosaures? On l'a déjà dit.
10 kilomètres.
10 kilomètres. Et troisième question d'Hervé, un satellite en perdition pourrait-il faire de gros dégâts?
Trop petit. Il se désintégrerait dans l'atmosphère. Même le Skylab, même la station Mir, on l'a vu.
Michael demande, est-ce que les météorites d'origine terrestre qui reviennent sur Terre contiennent encore des traces de vie terrestre?
Très intéressant comme question. Et ce serait super intéressant. Parce que si, par exemple, à l'origine de la vie sur Terre, il y a 4 milliards d'années, donc on a perdu beaucoup de traces sur Terre à cause de l'érosion, si des petits fragments avaient été envoyés dans l'espace et nous reviennent, donc ils auraient été intacts dans la glacière du cosmos, et magnifique. Oui, donc excellente question.
Alain demande, comment s'explique le fait que l'énorme et célèbre météorite de fer et de nickel tombée en Namibie n'a pas laissé de cratère d'impact?
Trop petit. C'est un astéroïde qui fait une météorite qui fait à peu près une soixantaine de tonnes. Il a dû faire une petite cuvette, mais ça a été balayé par le vent, par la poussière, donc trop petit.
Question sur les tsunamis. Olivier demande si un astéroïde tombait dans l'océan, un gros évidemment, ce qui n'aurait pas un risque de tsunami. Et André, vous dites que si l'astéroïde tombe dans l'océan, il n'y aura aucune victime. Mais est-ce que ça ne reviendrait pas tout de même à provoquer un raz-de-marée, même un petit?
C'est tout à fait exact. Alors il n'y aurait aucune victime pour un petit engin de 40-50 mètres. Comme l'astéroïde YR4 dont on parlait. En revanche, dès que vous montez un astéroïde qui fait à peu près 1 km de taille ou 500 mètres de taille, là, vous avez de la probabilité de déclencher un tsunami. Les Japonais, ils sont extrêmement attentifs, puisque même dans leur police d'assurance, ils intègrent le risque d'astéroïde.
Gilles demande, une déflagration telle que celle qui s'est produite donc en juin 1908 dans la région de la Tunguska, pourrait-elle faire disparaître un département français de la taille de l'Essonne?
Oui.
Ah, carrément. Alors, pas le département. Disparaître. Vous parliez de la ville de Paris tout à l'heure.
Ouais, Ouais, c'est vrai que ça détruirait la vie en la soufflant ou en faisant des grands dommages dans un rayon de 40 à 50 kilomètres. Donc c'est presque un département.
Qu'en est-il de la météorite de Rochechouart, demande François. Il y a même une photo de l'église de Rochechouart dans votre ouvrage.
Magnifique pour tous ceux qui passent à la frontière de la Charente et du Limousin. Allez voir Rochechouart, il y a un super musée. C'est un astéroïde qui a frappé la France il y a 215 millions d'années. Qui est totalement érodé, mais encore de magnifiques roches d'impact, des rouges, des vertes. Même il y a des thermes gallo-romains qui ont été construites avec cette pierre-là qu'il faut aller visiter.
Oui, vous dites que les églises se sont souvent inspirées, ont utilisé en tout cas ces roches.
Hein. C'est ce que je dis à tous mes étudiants en géologie. Vous voulez connaître la géologie d'un endroit ? N'allez pas creuser, allez à l'église.
Mathieu nous dit ceci. Est-ce que vous connaissez le nombre de satellites et autres objets en orbite qui sont touchés par des météorites ? Est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas ?
Ouais, ça arrive. Alors, il y a beaucoup également. Il faut faire la distinction entre également les débris spatiaux, les vis, les clés, tout ce qui a été largué. Ouais. Donc, c'est difficile de faire la différence. Mais oui, il y a des satellites qui ont déjà été touchés. Qui se sont mis d'ailleurs en rotation folle, etc., par des petits fragments de quelques grammes.
Merci beaucoup Charles Frankel, en tout cas, d'être venu aujourd'hui dans la Terre au carré. Je renvoie sur votre ouvrage, qui s'appelle « Bombe cosmique, la Terre face aux astéroïdes », et c'est publié aux éditions du Seuil. Merci beaucoup à vous.
Merci Mathieu.
À bientôt.